Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, une invitée très spéciale, la chef de l'opposition officielle, chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, en compagnie évidemment de Jonathan Carrero, mon fidèle acolyte. Donc bonjour Madame Anglade, c'est un honneur de vous avoir parmi nous.
Madame Anglade direct, let's go.
Ah ben oui, c'est ce que
Bonjour, bonjour. Alors, vous allez pouvoir m'appeler Dominique, ça va me faire plaisir.
Je vais essayer, je garantis rien, c'est des vieilles habitudes, ma mère serait fière de moi. Mais oui, donc quand même, vous êtes notre deuxième libéral à venir après Mme Risky.
Mm-hmm,
et ça va quand même nous faire un peu plus de diversité encore, ça va nous sortir des carcans péquistes un petit peu, que des fois on s'enferme involontairement.
C'est pas une mauvaise chose d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe aussi.
Effectivement, rien ne nous empêche d'observer tant qu'on ne touche pas. Mais quand même, on est dans une situation exceptionnelle au Québec en ce moment, on se le cachera pas, là. COVID, reprise de la pandémie, potentielle deuxième vague, la rentrée scolaire en ce moment pour ceux qui écoutent plus tard, et des sondages qui sont, c'est du jamais vu tant qu'à moi, là. T'sais, la CAQ à 57%, le PLQ en dessous de 20%, et ça, c'est pas juste chez les francophones, c'est partout. Et même à l'île de Montréal, la CAQ qui dépasse
le 40%. Mais moi, je vous inviterais à beaucoup de prudence que vous regardez ces affaires-là, puis les sondages, parce que je pense que, justement, la raison pour laquelle les gens ne commentent pas les sondages, c'est justement, il y en avait encore aujourd'hui sur la popularité de tous les premiers ministres à travers le pays, puis je pense qu'on est dans une période qui est très, qui est inédite, avec beaucoup de choses qui se passent présentement, et surtout, je crois que au sortir de cette crise, puis on n'en est pas sorti encore, hein, au sortir de cette crise, les gestes posés par les gouvernements vont être déterminants. Et je pense que ça va être l'opportunité aussi de vraiment définir quel genre de société dans laquelle on veut vivre, quel avenir collectif on se donne. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important. Quand je parle aux gens, c'est beaucoup plus important que de regarder les sondages d'une semaine à l'autre.
Un bon point quand même. J'entends, je vais quand même te laisser poser une question par rapport à ça, oui, rebondir là-dessus.
Ben oui, ben, certainement. D'abord, je me permettrai de vous remercier d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours agréable, comme vous l'avez très bien dit, de pouvoir observer, écouter les opinions des multiples partis au Québec. Mm-hmm. Je trouve qu'on a cette richesse au Québec, justement, d'avoir une pluridiversité, justement, d'opinions politiques. On est l'une des seules provinces où il y a, ben, en fait, on est la seule en ce moment, je crois, où il y a 4 partis officiels à la Chambre des représentants, à l'Assemblée nationale, dans notre cas. Alors, c'est quand même vraiment intéressant. Donc, écoute Dominique, voilà, moi j'ai
fait des efforts.
je me permettrai une question directe concernant l'aile jeunesse du Parti libéral.
Oui.
On l'a vu lors de leur dernier congrès, l'environnement, semblait, a pris énormément d'importance, était pratiquement, en fait, le pivot central de la conférence. Et je me demandais, en tant que chef d'opposition officielle à l'heure actuelle, mais également en tant que chef du Parti libéral qui va mener les troupes lors de l'élection générale de 2022, comptes-tu en faire de l'environnement un des pivots centraux de ton élection également?
Bien, c'est évident, puis c'est même pas... il faut être sérieux quand on parle de pivot central, parce que c'est tout le monde va dire qu'on est pour l'environnement. Ça, c'est tellement facile de le dire.
Ben oui.
C'est beaucoup plus difficile de le démontrer. Et quand je me suis lancée à la chefferie, il y a 2 éléments importants de ma plateforme que j'ai partagé. Il y avait une charte des régions et il y avait un nouveau pacte économique pour le climat. Donc, moi, mes couleurs ont été très claires par rapport à l'enjeu climatique, qui n'est pas un enjeu secondaire. Et contrairement à la crise que l'on vit aujourd'hui, on se parle de la crise de la COVID, puis bon, les gens attendent le vaccin. Il n'y a pas de vaccin pour les changements climatiques. Il n'y en a pas de vaccin. Alors, il va falloir que l'on réfléchisse de manière beaucoup plus générale à ce que c'est. Puis, quand on est sérieux par rapport au changement climatique, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a le projet de loi 44. Aujourd'hui, à Québec, il y a des députés qui débattent de ce projet de loi. Et c'est un projet de loi dans lequel on voit des positions du gouvernement actuel, du gouvernement Legault, qui vont complètement à l'encontre de tout ce que dit la communauté d'un point de vue environnemental. Et, par exemple, des organismes qui devraient continuer d'exister, que l'on abolit. Donc, il n'y a pas de réel… les mots ont une signification, mais surtout les gestes, et on constate que il n'y a vraiment pas d'appétit pour cette question-là. Et chaque fois que c'est le moment de prendre une décision, ben on hésite, on tergiverse. Moi, je pense que c'est la question climatique, c'est un enjeu qui est transversal, qui est central et qui va prendre une grande place à la prochaine élection, c'est bien certain. En tout cas, dans mon cas, certainement. Mais dans le cas d'autres partis également, j'en suis convaincue.
Oui, effectivement. Donc, dans le fond, de ce que je peux comprendre, ça peut être une façon pour le Parti libéral de se démarquer en 2022 pour vous, pour faire la différence, parce que vous avez été longtemps reconnu comme le parti de l'économie, le parti des vraies affaires, on pourrait dire.
Mais et l'économie, oui.
C'est quand même, il y a eu longtemps eu cette espèce de dichotomie où économie et environnement étaient opposés, et là, vous allez quand même avoir le mandat quand même assez lourd de ramener ces deux concepts-là qui ne sont pas opposés par nature, mais que les gens ont tendance à opposer, et tenter de faire une plateforme qui combine les deux.
On n'a pas le choix. Et en fait, on parle d'économie, c'est pas une histoire de… Le Parti libéral, s'il a été associé à l'économie moderne, c'est pas de la comptabilité. Là. On n'est pas en train de dire ben, il faut tant de chiffres de plus, puis telle rentabilité, c'est parce qu'on regarde pas ça de manière générale, on regarde de manière très spécifique. Un projet devrait être évalué en fonction de l'impact qu'il a d'un point de vue de la rentabilité financière, de la rentabilité environnementale, de la rentabilité sociale, de tous les aspects qui devraient être considérés, là-dedans. Et c'est ça une économie moderne, c'est ça une économie qui met au cœur de ses priorités l'humain, la relation avec l'autre. Et c'est ça qui fait aussi en sorte que tu es capable de développer tes régions et qu'elles soient capables d'atteindre leur plein potentiel. Donc, il faut aller au-delà de simplement dire « Ah, oh, ben il y a un beau projet qui va ramener de l'argent, puis c'est ça qu'on va évaluer. » C'est beaucoup plus large que ça maintenant dans tout ce qui est présenté. Et ça ne veut pas dire que c'est pas économique. Au contraire, ça veut simplement dire que l'économie a un pan beaucoup plus large que cela a été par le passé.
C'est intéressant, vraiment. C'est une vision effectivement très moderne de l'économie, parce qu'en ce moment, j'étudie en économie, puis de plus en plus, on parle
d'externalités,
l'environnement, tout ça. Ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment un nouveau paradigme économique qui inclut vraiment, on élargit un petit peu la perspective de c'est quoi réellement l'économie, puis que ça touche d'autres formes de, tu sais, le capital social, le capital environnemental, des choses comme ça. Mais ça fait, en très peu de temps, vous avez déjà réussi à parler des régions assez souvent. Là, je sens que vous avez le goût d'en parler. Je sens que c'est quelque chose d'important pour vous. Et ça m'intrigue. Et Jonathan aussi, j'ai l'impression que ça va l'intriguer parce que PLQ et région, on a tendance quand même à associer le PLQ avec la métropole et la CAQ et le PQ plus aux régions.
Donc, mais ça, c'est
quand même
récent.
Un plan. C'est un plan quand même
récent.
Assez.
C'est récent quand même, cette association-là. Parce que si vous vous souvenez, en 2014, où était la CAQ, c'est pas vrai qu'elle était dans toutes les régions du Québec et loin de là. Donc, je pense que c'est des perspectives qui changent au gré des élections aussi. Mais une chose est claire, c'est qu'en 2014, on avait des députés dans les différentes régions du Québec. Alors, c'est pas quelque chose qui… Oui, ça fait 6 ans aujourd'hui. Mais ça fait pas 50 ans. Là. Donc, les militants libéraux, il y en a dans chaque comté du Québec. Il y a une histoire dans chaque comté du Québec. Puis notre rôle, c'est d'aller entendre tout ce que les militants ont à dire, mais tout ce que les Québécois et les Québécoises ont à dire également. Puis je vous dirais que pour les régions, moi, ce qui m'anime d'abord, c'est que c'est pas Montréal versus les régions, on est la somme de toutes ces forces-là. Puis la Charte des régions, l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque région puisse atteindre son plein potentiel. Puis on sait que si vous prenez une région en particulier, on peut prendre le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va commencer par celle-là, mais il y a des blocages au niveau des programmes en matière d'éducation parce qu'on applique du mur à mur qui ne s'applique pas dans la région, pour des projets spécifiques. Même chose quand on se déplace en Abitibi-Témiscamingue, même chose quand on se déplace en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine. Il y a des réalités régionales qui doivent être prises en compte dans des décisions. Puis on parle beaucoup de décentralisation, mais ce n'est pas tant la décentralisation, c'est qu'on puisse prendre des décisions qui élimine le mur à mur dans certains endroits clés pour la région. C'est ça qui est important d'arriver à faire, puis c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'avoir une charte des régions.
Vous permettez-moi une question un peu plus personnelle, si je peux le dire ainsi. Moi, je viens de l'Outaouais. Et bon, on le sait très bien, l'Outaouais, c'est une région très libérale. Bon, maintenant, quelque peu caquiste, si on peut le dire ainsi. Mais j'aimerais savoir, en sachant la position géographique de l'Outaouais par rapport à la capitale fédérale, est-ce que le Parti libéral d'aujourd'hui, sous la direction de Dominique Anglade, pourrait avoir un statut un peu plus administratif devant la capitale fédérale afin de justement pouvoir dynamiser davantage, les échanges entre le provincial et le fédéral, justement, dans ce cas-ci, Ottawa?
Bien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, merci de la question. Puis je ne sais pas ce que ça veut dire exactement un positionnement plus administratif. Ce que je peux dire, par contre, peut-être que ça va répondre à la question, mais ce que je peux dire, c'est que, étant donné le fait que l'Outaouais, contrairement à toutes les autres régions du Québec, est très collé sur l'Ontario, fait face à des enjeux de main-d'œuvre, fait face à des enjeux de compétition puis de concurrence qui ne sont pas les mêmes que d'autres régions du Québec, et qu'on doit prendre en compte ces réalités-là dans les choix que l'on fait. Par exemple, pour des programmes au cégep, pour des salaires, pour nos infirmières et nos infirmiers, pour différents segments de différents emplois, on a besoin de prendre en compte la réalité de cette frontière qui est entre l'Ontario puis le Québec. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas si je réponds exactement à la question parce que c'est le volet, vous avez l'air d'insister sur un volet plus administratif.
Oui, bien, disons, grossièrement parlant, j'allais employer le terme diplomatique, surtout avec l'Ontario dans ce cas-ci, je peux le dire, mais c'est juste dans la mesure où vous devenez première ministre du Québec, est-ce que votre statut vous permettrait justement de valoriser l'Outaouais en fonction de sa position géopolitique?
Ah, ben oui, parce que justement… L'Outaouais étant justement cette frontière que l'on partage avec l'Ontario, avec les échanges que l'on a en Ontario, avec les relations qu'on entretient avec les autres provinces, moi je pense qu'il pourrait effectivement, on pourrait effectivement réfléchir à ce que l'Outaouais pourrait jouer comme position pivot par rapport à cela. C'est peut-être vers cette direction-là que vous posez la question. C'est quel est le rôle à ce moment-là que peut jouer l'Outaouais dans cette relation avec l'autre province d'à côté qui est la plus populeuse du Canada? Oui, absolument. Puis là, on peut même imaginer des secteurs en particulier, des domaines de pointe dans lesquels, avec lesquels œuvrer. Je peux penser à des technologies, je peux penser à de l'innovation entre l'Ontario et le Québec qui pourraient être soutenu, alimenté justement par la région de l'Outaouais. Donc, il y a plein de choses qu'on peut absolument envisager. Et je pense que, l'objectif de la Charte des régions, c'est de prendre justement la position géographique, la réalité régionale, la réalité sociologique aussi, les personnes qui y vivent, puis les secteurs d'activité, puis de faire en sorte que ce plein potentiel-là, on est capable de l'atteindre pour la région. Parce qu'on ne peut pas comparer l'Outaouais à la Gaspésie. On peut juste pas comparer cette réalité-là.
Donc, d'aller vraiment régions, en fonction des… excuse-moi, Sam, juste…
Oui, c'est juste… La Charte des régions, juste un questionnement, parce que… La Charte des régions, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de la lire, on m'en excusera, mais j'ai juste un questionnement par rapport au, quand même, l'ancien gouvernement libéral de M. Couillard avait quand même tendance à centraliser certaines choses, notamment les CIS, et moi je viens de l'Abitibi, plus précisément de Damos, et j'ai plusieurs personnes dans ma famille qui travaillent dans le domaine public, des choses comme ça, et ces centralisations-là, potentiellement que ça fonctionne à Montréal, tu sais, ou des choses comme ça. Mais en Abitibi, quand toutes les villes sont à une heure de distance, comme ça, ce fameux mur à mur-là, c'est quand même, je l'ai pas lu, mais je serais quand même curieux de voir Est-ce que vous revenez en arrière sur certains sur certaines politiques mises en place par votre prédécesseur?
Ben, en fait, dans les choses sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on ait une considération, par exemple, l'abolition des CRI, l'abolition des CLD, dans certains cas, dans certaines régions, cette abolition-là a fait, par exemple, que tu n'as pas la concertation dont tu as besoin dans la région. Ensuite, il y a eu des décisions administratives qui ont fait en sorte qu'il y a eu plus de centralisation. Moi, je suis prête à revoir avec les différentes régions des décisions importante. On ne pourra pas tout revoir. Enfin, je ne veux pas lancer l'idée que finalement, tout ce qui a été fait par le passé, on va tout revoir au complet et on va faire une réforme complète de A à Z. Ce n'est pas ça l'objectif de la Charte des régions. L'objectif de la Charte des régions, c'est de dire quelles sont les 4, 5, 6 priorités où on sait qu'il y a une énorme, ça va faire une énorme différence dans la région si on est capable de régler ces problèmes. Ça peut être des problèmes d'ordre environnemental. Vous venez de l'Abitibi, par exemple. L'Abitibi, en matière de construction, ça coûte passablement plus cher de construire en Abitibi que ça peut coûter ailleurs dans d'autres régions. Alors, est-ce que, par exemple, en matière de construction, on veut changer un peu ce mur à mur-là pour permettre justement l'avancement de certains projets? Il faut que la région décide de quelles vont être les priorités et qu'on soit capable de réellement d'enlever les verrous région par région. C'est ça l'objectif de la Charte des régions. Et là, tantôt, vous me disiez, elle n'a pas, j'ai pas eu le temps de la lire, elle n'a pas été écrite au complet, au contraire, parce qu'on veut la développer avec les personnes qui sont interpellées par ça, avec les différentes régions.
Ah, okay.
Mais elle a été élaborée, le principe, etc. Il y a quand même pas mal de choses.
C'est un peu comme le livre blanc des municipalités que...
Ça peut ressembler à ça, mais il faut que ce soit adopté par contre. Il faut qu'il y ait qu'on adopte non seulement le principe, puis après ça, qu'on soit capable de l'exécuter. Puis pour l'exécuter, je vous dirais que l'autre chose qui est très importante, c'est que mais ça ne constitue pas une raison pour laquelle tu gagnes une élection ou pas, mais il faut que tu aies un ministre responsable de la Charte des régions. Point barre. Pas un ministre régional responsable de l'Abitibi, puis après ça, il est aussi ministre des Transports, il est aussi ministre de l'Économie. Non, non. Un ministre responsable. La seule fonction, c'est de faire en sorte qu'il y ait une application de la Charte des régions. Et ça, ce sera pas une job facile du tout, mais c'est une job qui est essentielle.
Donneriez ça à un ministre qui a de l'expérience puis qui est habitué de jouer dans la machine. Là,
ça. Ah oui, ben ça, parce que ça demande beaucoup de doigté et d'expérience.
C'est ça, c'est, vous ne donnez pas ça à un député qui n'a jamais siégé ou qui n'a jamais fait de gestion.
C'est des personnes expérimentées.
Ouais, ça va être intéressant. Je serais curieux de voir, par exemple, M. Barrette faire ça. Je l'aime beaucoup, M. Barrette, mais des fois, il y va en mode bœuf dans un magasin d'ivoire.
Au contraire, je pense que tout individu qui a le CV nécessaire et qui n'a jamais siégé à l'Assemblée nationale peut faire ce travail-là. Je veux dire, après ça, bon, évidemment, il faut que tu gagnes ton élection pour pouvoir devenir ministre. Mais je veux dire, si tu as le CV, je veux dire, bon, ça, c'est ma vision des choses. Je veux dire, il n'y a rien qui t'empêche de faire le travail pour lequel tu t'es forcé toute ta vie et ce qui est représenté sur ton CV au final, c'est ça que c'est, donc.
Ben, ce qui est d'abord et avant tout important, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de travailler avec l'ensemble des ministères, l'ensemble des ministres, puis capable de dire, ben là, on s'en va par là, puis ça va pas faire l'affaire de bien des ministères. Aussi, si tu décides de pas appliquer un mur à mur, de faire des modifications en fonction du besoin d'une région, ça devient pas mal plus compliqué à appliquer. Mais c'est cette agilité-là dont on a besoin aussi. Parce que trop souvent, pour des raisons purement administratives, on n'est pas capable de procéder à des changements. Et ces changements ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Les priorités ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre.
C'est clair. Dominique. Permettez-moi,
oui.
On se force fort là. Non, mais sincèrement, permettez-moi une question qui rentre vraiment qui est très importante pour moi et je voulais vraiment avoir la vision du Parti libéral à l'heure actuelle sur cela. Est-il possible, sous un prochain gouvernement du PLQ, avec évidemment vous comme première ministre, un retour en force de la paradiplomatie québécoise, principalement avec la francophonie mondiale?
J'aimerais beaucoup. Parce que on a un rôle à jouer. Et je dis souvent, on n'est pas 8 millions de Québécois à parler français, là. On est 300 millions de personnes à parler français dans le monde. Et je pense que quand on parle de la valorisation du français, cette langue qui nous unit, qui nous rassemble, qui représente une force motrice, on est capable d'en faire. Alors, évidemment, il y a ce qu'on en fait ici au Québec, il y a ce qu'on en fait dans le reste du Canada, mais il y a ce qu'on en fait sur la scène internationale pour le rayonnement, pour le numérique, pour la culture, pour des nations qui se développent aussi dans cette langue-là. Et donc, je pense qu'il y a un espace à occuper plus grand que celui que l'on joue présentement, ça c'est certain. Évidemment, il y a un rôle économique, un rôle social également sur la scène internationale, mais on peut frapper plus fort que notre poids démographique, si vous voulez, à ce niveau-là, parce qu'on a les moyens de le faire pourvu qu'on ait l'ambition de le faire. Alors, cette nécessité d'être plus présent dans la francophonie, et c'est pas juste d'être plus présent, c'est de jouer un rôle actif. Et je pense que ça a un impact positif aussi pour les personnes qui viennent s'installer chez nous, qui voient la valeur de, comme je dis, on est 8 millions, mais on est 300 millions par les Français dans le monde. Il faut se le rappeler aussi.
Mais donc, on peut en déduire que vous n'êtes pas tellement d'accord avec la vision diplomatique de François Legault qui est très centré sur l'économie.
Ben, j'aimerais ça vous dire qu'elle est centrée sur l'économie parce que vous allez me dire exactement de quelle manière ça allait et comment ça s'est traduit récemment. On parle beaucoup de la coalition Vers Québec comme ils se disent « Ah oui, on est très économique ben, ». Jusqu'à présent, j'aimerais nommer moi l'exemple d'un parti très économique puis des gestes qu'ils ont posés qui reflètent ça. C'est peut-être que vous en avez. Je veux dire, à part le fait de dire que on mesure ça aussi dans les gestes qui sont posés. Je pense que c'est un parti de comptables, ça c'est vrai, on peut leur dire, puis ils ont des gens qui comptent, mais même là, lorsqu'on regarde ce qui se passe en termes de dépassement de coûts pour les maternelles 4 ans, lorsque l'on voit la manière dont on veut accélérer certains projets sans prendre en compte les considérations, je pense au projet de loi sur l'accélération des infrastructures ou 61, qui est passé à la trappe parce que la nouvelle ministre a bien compris que elle a bien compris que valait mieux pas aller dans cette direction-là, mais je pense qu'au-delà de la comptabilité, encore une fois, il y a l'économie, puis je pense qu'il y a des mots qui sont dits par François Legault, mais je n'ai pas encore vu les résultats concrets de toute cette démarche-là. Je pense que l'économie doit jouer un rôle important en considérant que c'est une économie moderne qui inclut l'environnement, qui inclut le social, qui inclut la culture également. Lorsque l'on parle de rayonnement à l'international, lorsque l'on parle de numérique, on a besoin d'avoir nos artistes qui rayonnent encore davantage, puis ça fait partie justement de tout le volet économique.
Puis je vais quand même vous poser une question qui est plus personnelle pour moi, parce que là, on parle beaucoup de rayonnement international, de diplomatie, tout ça. Récemment, au Parti québécois, il y a quand même une mode, je pourrais dire, à laquelle j'ai participé, à la suite de la sortie du livre de M. Robert Sirois sur les équipes nationales du Québec. Est-ce que un gouvernement libéral, sous votre gouverne, serait intéressé à prendre cette position-là d'avoir des équipes nationales québécoises? C'est intéressant. Parce que quand même, c'est pas un geste de rupture, c'est pas un geste séparatiste, mais techniquement, on a le droit à cause de notre statut de nation à l'UNESCO. Et c'est un bon geste qui sort de la francophonie, mais qui nous fait rayonner quand même.
Oui, comme on l'a fait d'ailleurs, là, comme le siège à l'UNESCO dont vous parlez. On n'a pas pris de position là-dessus. Je me suis pas fait une tête. Et je suis pas du genre à vous donner une réponse toute faite si j'ai même pas réfléchi plus en détail à la question. Mais je promets d'y réfléchir plus en détail parce que j'ai vu ça évidemment passer. Puis j'avais pensé a priori que il y a peut-être des éléments intéressants là-dedans à considérer. Je pense que ça mérite davantage de réflexion.
Ce serait quand même, je vais juste m'excuser l'apartheid. Ce serait quand même hilarant que François Legault, qui donne 3 fois de l'argent à Fondation Équipe Québec, renie sa promesse de ne pas faire d'équipe nationale. Que vous soyez élu puis que vous l'effaciez. Ça me ferait quand même très, très rire. Mais bon, ça me semble quand même être une bonne transition pour dire très clairement, il y a une différence idéologique entre le Parti libéral actuel avec l'aile jeunesse qui prend position pour l'interculturalisme, qui prend position sur le revenu minimum garanti, qui prend position sur l'environnement. Et il y a une différence aussi entre Dominique Anglade et Philippe Couillard, que ce soit économiquement la centralisation, que ce soit aussi sur le côté nationalisme. Là où moi et Jonathan, nous sommes très critiques de M. Couillard sur sa position nationaliste qu'on jugeait inexistante, on va être honnête. Là. Ça peut être de mauvaise foi, vous me direz, mais quand même. Alors que, de votre côté, on sent qu'il y a quand même un certain regain, on sent qu'il y a un peu plus de poigne. Et je me demande jusqu'où ce nationalisme-là va. Est-ce que vous êtes prête à aller un petit peu comme M. Bourassa, jusqu'au point de négocier avec Ottawa pour aller chercher certains pouvoirs, notamment en environnement? Vous parlez que l'environnement
est très important. Mais ça, je vous dis, c'est sûr. Parce que la question, puis chaque chef amène sa contribution. Hein, donc, je pense que c'est pas de dire chaque chef amène sa vision des choses. Mais il est évident pour moi que les intérêts, défendre les intérêts du Québec, les promouvoir, ça veut aussi dire, ben regardez, il y a des affaires sur lesquelles on aimerait ou bien obtenir davantage de pouvoir, ou bien discuter de la manière dont les choses sont faites pour prendre en considération les forces du Québec dans certains choix qui sont faits avec Ottawa, ou encore un positionnement sur des enjeux internationaux qui ne reflètent pas nécessairement un positionnement pan-canadien, mais où le Québec se démarque particulièrement et l'environnement en est un bon exemple. Donc, est-ce que j'ai de l'appétit pour ça? La réponse est absolument. Absolument que j'ai de l'appétit pour ça. Maintenant, il va falloir déterminer où sont les priorités, parce que tu peux dire tout m'intéresse, je veux tout négocier, etc. Je pense qu'il faut se concentrer.
On ne veut pas s'embarquer dans un Mitch 2.0 non plus.
Des éléments. Oui, puis se concentrer sur des éléments qui vont dans le sens d'un projet de société, un projet de société où les gens se reconnaissent là-dedans, où une plus grande reconnaissance au niveau canadien ou au niveau international va aller dans la même direction que ce projet de société-là, où on est capable de démontrer comme juridiction qu'on a réussi réellement à comprendre ce que ça veut dire la combinaison entre l'économie puis l'environnement, à avoir un projet inspirant. Je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on démontre. Et pour le démontrer, un des leviers, évidemment, c'est la relation avec le fédéral et ce que l'on va chercher à obtenir de la part du fédéral, mais également dans le positionnement, je pense que le Québec a aussi un rôle à jouer dans la Fédération canadienne. Un rôle de leader, un rôle au sein du Conseil de la Fédération, un rôle d'influenceur plus important. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire.
Justement, sur cette question bien précise, sur cette affirmation, je devrais plutôt dire, la question va comme suit. Le fédéralisme que le Parti libéral du Québec va tenter de mettre d'avant en 2022 se compare-t-il à la CAQ ou c'est similairement la même chose, de votre point de vue, bien sûr?
Ben non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que on veut absolument pouvoir jouer un rôle très actif au sein de la fédération. Se démarquer dans des domaines clés, notamment des enjeux d'ordre climatique. Le faire aussi, ça peut être sur d'autres enjeux, par exemple. On parle souvent du modèle québécois, c'est un exemple. Mais le modèle québécois, c'est quoi, entre autres? C'est aussi le fait que, lorsqu'on regarde une des plus grandes entreprises au Québec, c'est pas la plus grande, c'est quand même une coopérative. On a la Solio, maintenant, qui était auparavant la coop fédérée, on a une économie sociale où on a été capable de se démarquer sur la scène internationale de manière importante. Donc, tout le volet des OBNL, des coopératives, c'est quand même une force que nous avons. Il y a plusieurs domaines où, partout où nous sommes une force, on devrait être capable d'influencer le cours des choses au niveau de la fédération canadienne. Et en ce sens, je pense que oui, on se démarque de la carte très largement. Et maintenant, si on va sur la scène internationale, je pense qu'on va avoir une perspective plus large que simplement dire, ben là, on veut faire des affaires. C'est bien de faire des affaires. Moi, j'ai évolué dans le domaine économique là, pendant 25 ans. Je veux dire, j'adore ça, j'en mange. L'économie, je trouve ça fascinant, puis encourager nos entrepreneurs. Cela dit, le poids de l'influence dans les institutions, je crois qu'on est capable d'aller jouer davantage sur ce volet-là. Ça fait partie, jusqu'à un certain point, du fédéralisme, évidemment.
Tout à fait.
Donc, dans le fond, ce qu'on peut comprendre, c'est le PLQ de Dominique Anglade, c'est un PLQ qui est plus revendicateur un petit peu au sein de la fédération, mais principalement aussi un Québec qui veut prendre plus sa place, qui veut mener par l'exemple et qui veut exporter son modèle québécois.
Oui, ah ben ça, honnêtement, avec votre résumé, vous me faites plaisir, là, parce que non, mais c'est vrai, parce que c'est comme ça que je le vois. On a un rôle aussi de phare. Hein? On doit être un phare pour jusqu'à un certain point pour le reste du monde, parce qu'on est une société qui est moderne, qui peut voir grand, qui peut voir loin. Mais on a besoin aussi de prendre des virages importants que nous n'avons pas encore pris, qui nous permettrait de nous illustrer davantage sur la scène internationale. Donc, l'enjeu économie-environnement, on en a parlé, cette nécessaire combinaison, mais aussi sur les enjeux sociaux. Moi, je regarde le Québec, par exemple, on a pris de l'avance sur le rôle des femmes. On a pris de l'avance dans la mesure où, lorsqu'on regardait le taux d'emploi des femmes au Québec, il y a eu des avancées importantes qui ont été faites dans les dernières décennies. Par contre, avec la COVID, on constate qu'il y a potentiellement un recul important du taux d'emploi des femmes dans notre société. Et donc, il y a des questions importantes qui vont se poser. Et moi, j'aimerais bien que collectivement, on se dise, lorsqu'on va penser à la relance, on va penser à la reprise, ces enjeux-là vont faire partie des débats pour une relance économique qui soit inclusive. Et notre société, dans un monde idéal, c'est quoi la société idéale? Pour moi, la société idéale, c'est une société dans laquelle chaque individu, peu importe la couleur de sa peau, peu importe son sexe, peu importe ses orientations sexuelles, etc., puisse atteindre son plein potentiel. Une fois que tu as ça, comme ça, c'est une société idéale, parce que chaque personne contribue au meilleur de son potentiel. C'est à ça qu'on doit arriver. Moi, je suis convaincue que le Québec est drôlement bien passé pour y parvenir, mais encore faut-il qu'on fasse les virages qu'on a besoin de faire.
Ben, à moins que tu aies une question, Jonathan, moi, j'aimerais enchaîner avec quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu as quelque chose, toi?
Non, vas-y.
Mais toutes les questions ont l'air de vous tenir... Toutes les questions ont l'air de vous tenir à cœur, par exemple.
Ah, oui, ben, quand même, là, on en profite. On se garde. Mais ben, en même temps, la politique, on en manque. Là, on ne s'est pas lancé là-dedans parce qu'on n'aimait pas ça. Mais celle-là, c'est parce que c'est quelque chose que je défends depuis longtemps. J'en parle au sein du Parti québécois puis tout ça, et beaucoup d'hésitation. Et là, on parlait de notre vision d'une société idéale où chaque personne atteignait son plein potentiel et tout ça. Et à un certain moment, moi, je me suis dit, mais chaque personne atteint son plein potentiel, mais sûr que leur potentiel, malheureusement, c'est limité. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et dans le dernier congrès jeune du PLQ, la question du revenu minimum garanti, ça a été quand même discuté de long en large. Monsieur Blais est venu en a discuté virtuellement, évidemment. Et il y a eu des débats par rapport au revenu minimum garanti, taxes négatives, revenu universel, tout ça. Mais
M. Blais, le dernier conseil du Parti libéral?
Oui, le congrès jeune.
Oui, mais M. Blais n'était pas là, par contre.
M. Blais n'a pas fait une capsule pour... parce que j'avais vu une publicité du congrès jeune, comme quoi M. Blais était un invité.
Au congrès, c'était pas un des deux... des deux personnes. Je vais juste savoir si on parlait du même événement, mais on parle du même événement. Mais finalement, c'était deux personnes qui étaient spécialisées dans le domaine qui sont venues échanger avec Paul Robitaille.
Ah, OK, parce que j'avais vu M. Ouais. Blais. J'imagine que c'était une capsule pour faire la promotion à ce moment-là.
Probablement, oui, probablement. Parce que c'est quelqu'un qui est très, très...
Ben, il est connu dans le domaine pour ça. Il l'avait défendu à l'époque qu'il était ministre puis qu'il était responsable de la région de Québec aussi, je pense. Puis... Mm-hmm. Et je me posais la question, revenu minimum garanti, impôt négatif, peu importe lequel, est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez, quelque chose qui vous intéresse? Et deuxième question, puisque vous êtes quand même au PLQ, donc vous êtes fédéraliste, c'est-tu vraiment possible d'avoir une mesure comme ça au sein du Canada qui serait gérée par le provincial?
Ben, est-ce que c'est possible? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est facile et à mettre en application? La réponse, c'est non. Je pense que est-ce que c'est un sujet qui m'intéresse? Oui, il m'intéresse, mais je pense qu'il faut qu'on fasse, il y a encore passablement de travail puis de réflexion à faire avant d'arriver à une telle proposition, parce que tu peux difficilement le faire sans le fédéral. Alors comment est-ce que tu arrives à négocier ça avec le fédéral dans un contexte où on espère être post-COVID à un moment donné, où il va falloir discuter tout ça avec le fédéral. Donc l'idée, pour moi, ce qui est important, parce que je reviens à ce que vous disiez au départ en disant Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne sont pas capables d'atteindre leur plein potentiel? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'y arriveront pas pour toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça? Nos plus vulnérables, en fait. C'est ça votre question, c'est nos plus vulnérables. Comment est-ce qu'on arrive à les soutenir? Et ça peut être une réponse qui peut fonctionner. Il y en a peut-être d'autres également. Alors, sur ce volet-là, moi, je vous dis…
Encore en réflexion.
Je poursuis la réflexion là-dessus. Je ne peux pas vous dire, ah oui, c'est sûr, on va aller de l'avant, puis c'est ça qu'on va proposer. Je ne peux pas vous dire ça. On n'en est pas rendu là. Je constate l'intérêt très marqué pour les jeunes. Il y avait un autre sujet qui avait été abordé lors du congrès jeune, qui était celui de la santé mentale. Celui-là, je m'y suis engagée. Là, j'avais déjà dit, moi, il faut qu'on fasse quelque chose sur l'enjeu de la santé mentale. Il faut qu'on investisse des sommes. Il faut que ça fasse partie des frais qui soient couverts par notre l'assurance maladie. Donc,
oui, Thierry, il tenait beaucoup à cette proposition, justement.
Cet enjeu-là m'interpelle au plus haut point. L'autre m'interpelle, mais il faut plus de travail, de réflexion pour trouver les bons mécanismes. C'est moins évident, à mon avis, comme réponse. C'est pas oui ou non. Il y a encore de la réflexion à faire là-dessus.
J'aimerais vous poser une question concernant la capitale nationale.
Oui.
Dites-moi si je me trompe, évidemment. Je crois être au courant que vous êtes pour le troisième lien et pour le tramway également de...
En fait, le troisième lien, j'aimerais vraiment vous dire ce pourquoi nous sommes pour, parce que c'est difficile.
Oui, tout à fait. Justement, ma question va dans le sens.
On n'a pas d'études, on n'a pas d'argent identifié à ça. Alors, c'est difficile de vous dire maintenant où est-ce qu'on en est. Ce que je peux vous dire, par contre, par rapport à la situation à Québec, c'est que il m'apparaît évident que pour une ville, de la taille et de l'importance de Québec, dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, pour notre capitale nationale, que l'on doit avoir un projet de réseau structurant. Et si on est sérieux par rapport à ça, parce que là, le gouvernement, là, il met plein de contraintes, il faut que ce soit ceci, il faut que ce soit cela, etc. Bon, le gouvernement n'exerce pas de leadership. Et d'ailleurs, il y a deux ministres qu'on n'entend pas du tout sur ces enjeux-là, qui se prononçaient très fortement avant, puis on ne les entend plus du tout maintenant. Le ministre Éric Kerr, puis le ministre Jonathan Julien, un qui était farouchement en faveur, l'autre qui était farouchement contre. Enfin, bref, on ne les entend plus sur la question. Moi, je pense qu'il faut qu'on exerce un leadership fort là-dedans. Puis je comprends toutes les contraintes qu'il puisse y avoir par rapport à ça, mais je pense qu'on a besoin d'avoir un réseau structurant. Le troisième lien, j'aurais envie de vous dire lequel présentement, parce qu'on est un peu... beaucoup dans la confusion des genres, sans aucune information. Et le premier ministre, la semaine dernière, il a dit « Le projet du troisième lien est aussi avancé que le projet du réseau structurant. » Je veux dire, je m'excuse, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense que pour le développement de notre capitale nationale, on a besoin d'avoir un réseau de transport structurant. Puis pour le reste, bien, on attend de l'information, on attend de l'information de la part du gouvernement.
C'est clair. Donc, en somme, j'ai comme l'impression qu'à l'heure actuelle, vous êtes plus dans une mentalité de donner l'heure juste à M. Legault lors des prochaines élections sur la question.
Bien, ils se sont engagés à faire une première pelletée de terre avant le 2022 parce que les projets, c'est trop long.
C'est rarement une bonne idée de faire des promesses comme ça.
Mais à la fin, on est à 2 ans de la prochaine élection, puis on ne sait même pas comment ça va coûter, on ne sait même pas c'est quoi le tracé, puis le tracé que vous avez vu la dernière fois, vous avez vu comme moi, hein, vous prenez un crayon, puis vous dessinez la ligne, puis c'est ça que ça donne. Je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux aussi et rigoureux dans les approches que l'on a. Ouais, je pense qu'il y a eu un peu de... quand ils ont décidé d'aller dans cette direction-là, je ne pense pas que c'était du tout rigoureux comme approche. On pensait que c'était à l'extrême est de Québec que ça allait se passer. Ah, finalement, ce ne sera pas ça. Il faut un peu de sérieux aussi lorsqu'on parle de projets qui vont durer 50 ans. On l'espère 100 ans. Il faut un peu de sérieux.
Quand même, je regarde ça, puis on sent quand même une certaine... comment est-ce que je pourrais dire ça? Une animosité, on pourrait dire. Peut-être pas une animosité, mais... on sent que vous trouvez que le gouvernement de la CAQ en ce moment manque de rigueur. Il y a beaucoup. On sent qu'il y a un petit. Vous trouvez qu'il y a de l'improvisation.
Oui.
Pas vous? Et ça m'intrigue quand même. Est-ce que ça fait partie des raisons pourquoi vous avez quitté ce parti-là il y a maintenant plusieurs années? Ou est-ce que c'était vraiment pour des questions idéologiques?
C'était un mélange des deux. Ça fait 8 ans déjà. Le volet, c'est clair, puis je ne m'en suis pas cachée, hein, le volet identitaire, ça ne me rejoint pas du tout parce que je pense qu'on est capable de bâtir une société québécoise forte, francophone, soucieuse de ce qui arrive à ces minorités et inclusive. On est capable de faire tout ça ensemble. On n'était pas obligé de mettre les uns contre les autres. Moi, c'est ma manière de penser l'avenir du Québec. Je pense que la rigueur dans les projets, la non-improvisation, c'est une bonne chose aussi quand on fait des politiques publiques. Mais je vous dirais qu'au-delà de tout ça, je ne pense pas qu'on doit faire de la politique parce qu'on est contre quelque chose. C'est quelque chose qui m'est peut-être bien personnel parce qu'il y en a qui s'embarquent en politique parce qu'ils disent « bon, ils voient telle affaire, puis ils sont tellement contre qu'ils vont lutter contre ça, puis ça devient une cause. » Je pense qu'il y a des gens qui le font de cette manière-là. Moi, c'est davantage parce que je crois qu'on est capable. J'ai cette impression-là qu'on n'a pas eu de grands projets de société qui nous ont animés collectivement, peu importe la région d'où on vient, peu importe la personne que l'on est. Puis j'aspire à quelque chose d'inspirant, justement. Et lorsque tu es venu le temps de me dire est-ce que j'allais être à la chefferie ou pas, je me suis posé la question. J'ai dit, ben, qu'est-ce que tu as envie de proposer? Qu'est-ce que tu vas mettre de l'avant? Ce n'est pas juste être dans l'opposition pour t'opposer. C'est qu'est-ce que tu vas mettre de l'avant comme projet? Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te porte, puis je pense que c'est d'abord et avant tout ça qui m'anime dans mon quotidien. Évidemment, tu as un rôle de critique à jouer parce que c'est la force des choses, c'est le rôle de notre démocratie, c'est de poser des questions, c'est le système parlementaire que nous avons, mais au-delà de ça, tu peux très bien jouer un rôle constructif puis réfléchir, et c'est ce que te permet aussi le rôle de l'opposition, c'est de pouvoir prendre un peu de recul puis de proposer des idées qui sortent des sentiers battus.
Je ne sais pas si c'est osé de ma part de le dire ainsi, mais je vous entends et sincèrement, dans ma tête à moi, vous semblez être un parfait mélange entre M. Lesage et M. Bourassa. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est...
Je vais vous citer.
Calme-toi, Jonathan.
Non, mais c'est
je suis pas nécessairement en désaccord que... Dominique Anglade amène un certain regain nationaliste, là, mais j'irai pas jusqu'à dire M. Lesage ou M. Bourassa. Enfin, j'attends des gestes concrets de rupture à ce moment-là. J'attends. J'attends impatiemment et surtout la question la plus importante selon moi qui a fait que j'ai respecté éternellement Robert Bourassa, c'est-à-dire quand c'est venu le temps, la loi 101 de mettre la clause nonobstant, il l'a mis. Et là, moi, j'attends avec impatience votre décision sur la loi 21. Quand ça va venir le temps de mettre la loi 21 ou à la clause dérogatoire ou de la réformer, qu'est-ce que ça va être votre décision?
J'ai été très claire là-dessus, puis peut-être que vous n'allez pas aimer ma réponse. Je rappelle que Robert Bourassa a mis la clause nonobstant une fois et l'a enlevée rapidement par la suite.
Ça y a quand même coûté Meech probablement là, de mettre la clause dérogatoire pour la loi 101.
Bon, le point, c'est qu'une clause dérogatoire, et d'ailleurs, c'est une période limitée dans le temps, il n'y a pas plein de clauses dérogatoires dans nos lois. Hein. Vous regardez nos lois, là, nos lois sont faites pour qu'il y ait le respect des chartes. Moi, je ne suis pas en faveur de clauses dérogatoires. Puis d'ailleurs, on devrait, c'est pas quelque chose dans la démocratie, on se dit, mais mettons une clause dérogatoire. Imaginez une loi, pensez-vous vraiment, là, qu'il va y avoir une loi au Québec qui, on se projette, OK, dans les 50 prochaines années. Chaque 5 ans, on va renouveler la clause nonobstant, ça s'est jamais fait. Puis il y a une raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'on essaie de trouver ce qui respecte nos chartes, ce qui respecte également nos valeurs, puis l'importance de la laïcité. Alors, si vous voulez quelqu'un qui soit parfaitement à l'aise avec la question de la laïcité, j'en suis complètement, mais je pense que la manière dont ça s'est fait, je pense que la clause nonobstant, je pense pas qu'elle ait sa place. Et donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. Je ne pense pas que c'est le renouvellement de la clause nonobstant sur la loi 21 qui démontre ton grand degré de nationalisme ou qui démontre, à tout le moins, ton intérêt pour la laïcité. L'important pour moi, c'est que les décisions que l'on prend en tant que gouvernement, en tant que société, soit faite de manière totalement indépendante que des décisions qui sont prises par rapport à la religion. Ça n'a rien à voir et ça ne devrait jamais avoir de lien. Il ne devrait jamais avoir de lien entre les deux. Donc, tout ce que j'ai dit par rapport au projet de loi, à la loi 21, c'est que moi, je souhaite que l'on puisse dire qu'on ait une laïcité au Québec qui respecte nos chartes.
Par contre, je comprends votre position, tout ça, mais il y a quand même un appétit pour cette loi-là, en règle générale. Il y a quand même un fait qui est important, c'est que la charte à laquelle vous dites qu'il faut se soumettre est une charte que même votre collègue le plus fédéraliste et le plus enclin envers le Canada, M. Couillard, n'a pas osé signer, c'est-à-dire la charte de 82. Et donc, je trouve ça quand même... Oui, dire qu'il faut respecter les chartes, c'est important, d'accord, grand bien nous fasse, mais c'est quand même de dire qu'il faut peut-être nier une partie... Quand que les gens disent qu'il faut agir, qu'il faut avoir notre modèle sur la laïcité, faut quand même admettre que la charte canadienne et les jugements précédents de la Cour suprême en termes de religion. Hein? Et la charte québécoise aussi, effectivement.
On ne parle pas juste de la charte canadienne, on parle de la charte québécoise.
Aussi, charte québécoise, ouais. Effectivement. Mais il faut quand même se dire que, historiquement, la vision canadienne du droit religieux nous laisse pas beaucoup d'espace pour réglementer.
Ben, je pense qu'on intègre la notion de laïcité de manière formelle dans notre charte. Je rappelle que le projet de loi, dans la loi 21, il y a des articles avec lesquels on était parfaitement à l'aise et en faveur. Maintenant, qu'on laisse et même des gens qui sont en faveur de la loi 21 qui estiment effectivement qu'il ne devrait pas y avoir de clause nonobstant parce que ça doit pouvoir passer le test des tribunaux. Alors, je ne pense pas que ce soit un véritable enjeu. Puis vous me parliez de sondage. Si vous regardez les sondages par rapport au projet de loi, c'est une chose. Si vous posez la question aux gens, est-ce que le projet de loi devrait respecter les chartes, l'appui à la loi devient beaucoup moins important. Et dans une société post-COVID, moi j'ai l'impression qu'il y a des enjeux sur lesquels on va vouloir se positionner, des enjeux de vivre ensemble, des enjeux de langue, des enjeux de culture, toutes sortes d'enjeux dont on vient de parler, qui sont fondamentaux et pour moi respecter les chartes, ça me paraît la base aussi de notre démocratie.
Mais si donc vous pensez que la loi 21 pourrait en ce moment passer le test des tribunaux selon vous?
Je suis ingénieur. Alors, ne me rendez pas d'émettre d'opinion juridique là-dessus, je ne suis pas juriste. Pardon?
Je dis, vous êtes ingénieur. Le pont de Québec, il tient encore pour combien d'années?
Merci de me challenger aussi. En fait, je suis ingénieur industriel. En usine, je peux vous parler longtemps des processus. Mais plus sérieusement, par rapport à au projet de loi, qui est une loi maintenant, mais cette loi 21, posez-vous vous-même la question. Là. Vous, demain matin, vous êtes premier ministre. Okay? Demain matin, vous êtes premier ministre. Ça veut dire que chaque 5 ans, vous vous engagez à renouveler la clause nonobstant ou à un moment donné, vous allez vous dire, comme Robert Bourassa, vous allez vous dire, ouais, ben peut-être qu'il faut trouver une alternative parce qu'on ne pourra pas faire ça chaque 5 ans. Vaut mieux trouver un mécanisme qui va nous permettre de vivre avec les lois que nous avons, dans les valeurs que nous avons, que ça respecte les chartes et qu'il y ait ce vivre ensemble. Posez-vous la question, si vous êtes premier ministre demain matin ou vous l'êtes pendant les 30 prochaines années, est-ce que c'est ça que vous allez recommander?
Si j'ai une réponse un peu trop facile à ça, mais c'est correct.
Peut-être que votre réponse, c'est oui. Mais c'est
ma réponse à moi, c'est que personnellement, il faudrait que je sois juriste pour commenter à ce moment-là, effectivement, de mon côté. Mais la charte québécoise aurait présence sur la charte canadienne et je ne baserai aucune de mes lois sur la charte canadienne ou très peu, puisque je la juge illégitime. Tant qu'on n'a pas signé, tant qu'elle a été décidée sans nous. Mais ça, c'est une position qui est évidemment qui cadre pas beaucoup avec le Parti libéral en général. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est plate à dire, mais dans ma tête à moi, puis dans la tête de plusieurs indépendantistes et de plusieurs nationalistes autonomistes, c'est un peu les deux solitudes. C'est qu'on est obligé de fonctionner selon des règles selon qui nous ont été imposées, selon des tribunaux qui sont nommés par Ottawa, tout ça. Je sais que les tribunaux canadiens sont très, très bons comparés quand même aux tribunaux américains qui sont très partisans. Loin de moi l'idée de faire une théorie du complot ou quoi que ce soit, mais n'empêche, on est réglementé par des lois et une charte qu'on n'a pas signée. Et dans ma tête, à moi, c'est inconcevable. Je me dis, comment est-ce qu'on peut défendre ça? C'est la structure même, c'est la fondation même d'une société, encore plus une société d'une nation distincte comme le Québec, comme M. Bourassa l'avait dit, qui est capable d'autodétermination. Je ne comprends pas qu'on accepte ça au Québec. Moi, ça me fâche. Mais en même temps, c'est comme François Legault avait dit, la Constitution, que ça change un matin. Les gens s'en soucient très peu.
Mais c'est pour ça aussi que vous avez vos... puis c'est la beauté de notre système. C'est pour ça que vous avez des valeurs qui vous animent. Puis vous dites, moi, je milite au Parti québécois. Et ce qui m'anime dans cet exercice-là, c'est de me dire que je n'accepte pas ce qui s'est passé par le passé. Je le rejette et j'aimerais qu'on change cette dynamique-là. Puis tout ça, c'est légitime. C'est parfaitement légitime. C'est pas le regard nécessairement que je pose parce que ce qui m'anime plus encore, c'est de trouver ce qui nous rassemble que ce qui nous divise. C'est de trouver quelque chose où on se dit chaque personne peut y contribuer, puis on est capable d'amener le Québec encore plus loin. C'est ce dans quoi j'ai envie, c'est pourquoi j'ai envie de militer. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a une diversité d'opinions, de partis, voilà. Parce qu'on n'a pas les mêmes perspectives, justement.
Justement, on boucle la boucle un peu du commencement. On vous rappelle, on est quand même la seule province canadienne où il y a 4 partis officiels à sa Chambre des représentants, ce qui n'est pas rien. Et ça, c'est encore une fois...
C'est sûr que la Colombie-Britannique n'a pas ça, ils ne sont pas dans un gouvernement de coalition tout le temps?
Non, mais 4 partis représentés, je veux dire.
Ah, OK, ouais, peut-être.
On est pas mal certain qu'on est la seule. Mais écoutez... Dominique Anglade, merci énormément d'avoir participé à cet exercice. Ça nous fait énormément plaisir de vous avoir reçu.
Ben moi aussi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Puis, j'aimerais tellement ça que dans notre société en général, qu'on soit à même d'avoir ces échanges, toute allégeance confondue, et de pouvoir faire avancer. Puis les bonnes idées, elles sont... Elles émanent de partout, hein. Elles ne sont pas propres à un parti politique et c'est heureux pour nous tous. Donc, je vais renouveler cette expérience quand vous voudrez.
Écoutez, viendrez nous voir à Québec. Nous sommes situés ici, dans notre belle capitale nationale.
Exact.
Avec un beau projet de réseau structurant.
Évidemment.
Et oui.
Écoutez, chers auditeurs, j'espère que ce balado vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux, à aller voir l'agenda.ca, plus de détails. Oui, .ca, mon Dieu, j'en oublie mon site web, ça va pas bien. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.
Merci beaucoup.